C'est vous qui le dites.
L'émission d'info locale.
Brest. Hello tout le monde, aujourd'hui pas de quotidienne, mais par contre on va rediffuser une interview de Radio Campus Grenoble. Cette interview a été réalisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue le dimanche 8 mars 2026. Donc il s'agit d'un échange entre le docteur en études cinématographiques Samuel Saint-Pé et Lisa Bermond, une ancienne service civique à la radio Info RC à Aubenas, autour de la représentation des femmes dans le cinéma de science-fiction. Samuel et Lisa vont échanger autour de la notion de la rencontre entre humain et non humain, mais aussi de la représentation des femmes au cinéma, plus précisément de la notion de male gaze théorisée par la critique de cinéma et réalisatrice Laura Mulvey. Il y a aussi des questionnements sur l'idéalisation du corps féminin au sein du cinéma de science-fiction, avec pour exemple la scène dans Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi, sorti en 1983, où la princesse Leia devient prisonnière de Jabba le Hutt en tenue légère sans aucune raison apparente. En somme, c'est un échange autour de questionnements très contemporains et féministes, et je vous laisse découvrir la suite en écoutant l'interview. Par la suite, on écoutera un reportage de Sam sur l'équipe de Queer Aman FC, un club qui a la particularité d'être queer et féministe. Bonne écoute sur Radio U. Radio U.
Do you want to be my friend?
Of course.
Will it be possible?
Why would it not be?
Our conversations are one-sided. You ask circumspect questions and study my responses.
Yeah.
You learn about me, and I learn nothing about you.
Hello, I'm here.
Oh. Hi.
Hi. How are you doing?
I'm well. How's everything with you?
Pretty good, actually. Really nice to meet you.
Nice to meet you too.
Science-fiction, genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs, souvent futurs, impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes. C'est la définition du genre qui nous intéresse aujourd'hui, telle qu'on la retrouve dans le dictionnaire Larousse. La science-fiction est un genre très large. Et bien que beaucoup de sujets soient intéressants à traiter, il a fallu faire un choix pour que l'émission ne dure pas 8h30, et ce choix m'a été facilité par l'actualité. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, ce samedi 8 mars 2025, nous aborderons donc dans cette émission la question de la représentation des femmes dans le cinéma de science-fiction. Pour être honnête, je ne suis pas une très grande consommatrice de ce genre, et pour preuve, pendant très longtemps, une de mes seules références de science-fiction était La soupe aux choux de Jean Giraud avec Louis de Funès. Mon intérêt pour la science-fiction n'est que très récent, et lorsque j'ai voulu aborder la représentation des femmes au cinéma, je me suis tout de suite dit qu'avec le cinéma d'action, c'est peut-être là que les femmes sont le plus mal représentées, sexualisées et objectifiées. Alors, idée reçue ou pas? Pour tenter d'avoir une réponse, je reçois aujourd'hui un expert du genre, Samuel Saint-Pé, docteur en études cinématographiques. Merci Samuel d'avoir accepté de venir échanger avec moi.
Merci Lisa de m'avoir invité.
Tu es l'auteur d'une thèse qui s'intitule « Crise du contact dans le cinéma de science-fiction anglo-saxon de 2013 à 2023 ». Avant de commencer, est-ce que tu peux rapidement expliquer de quoi parle cette thèse?
En fait, j'ai voulu étudier quelque chose qui est très présent en science-fiction, une espèce de cliché, une thématique en tout cas très forte, qui est donc le contact entre humain et non-humain, la rencontre entre humain et non-humain. En science-fiction, dans des films récents plutôt, donc c'est-à-dire avec des robots, des extraterrestres, des animaux parfois. Et l'idée, c'était donc de voir quelle est la particularité aussi de ces films-là dans les années 2010, alors plutôt dans les films américains, et qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en avant dans la représentation de la communication entre humain et non-humain, et de montrer que justement on est dans une recherche un peu de mieux communiquer avec l'autre, avec l'étranger. En tout cas dans les films, je ne dis pas que la société va dans le bon sens là-dessus, mais en tout cas les films représentent ça, et c'était ça que j'ai voulu voir un peu avec cette thèse.
Et donc dans la science-fiction en général, et tu parles aussi donc de la représentation des femmes, et on va revenir là-dessus un peu plus précisément. Ouais. Mais donc ça fait partie de ton sujet de thèse.
C'est un morceau de ma thèse, ouais. C'est, évidemment c'est pas tout l'ensemble, donc je ne suis pas non plus un grand expert de ces questions-là, mais en tout cas pour ce qui est de la science-fiction, ouais, c'est quelque chose que j'ai étudié pas mal.
pour parler de la représentation des femmes au cinéma, avant même de se pencher sur la science-fiction, il faut parler d'une personne, Laura Mulvey. Laura Mulvey est une réalisatrice et critique de cinéma britannique, et dans son article « Plaisir visuel et cinéma narratif » publié en 1975, il y a 50 ans, elle pose les bases d'un concept dont vous avez déjà peut-être entendu parler, celui du male gaze. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le male gaze ?
Ouais, le male gaze, donc c'est un ensemble de traits de mise en scène, on va dire, donc de réalisation, donc c'est-à-dire à partir du montage, de la manière de cadrer le film, etc. Toutes ces choses-là qui vont être mobilisées pour créer un sentiment de relation asymétrique entre homme et femme, et souvent voilà, en défaveur de la femme. Et ça va être la manière donc de la représenter visuellement à l'écran, de la sexualiser potentiellement. C'est même un peu la principale chose. Et donc c'est tout un ensemble de codes cinématographiques qui vont être mobilisés pour essayer de retranscrire ça et de faire du spectateur aussi, souvent masculin, le complice de ça. Donc en gros, essayer de créer ce désir-là chez le personnage masculin, que le personnage masculin soit en adéquation avec le spectateur aussi masculin. Donc en gros, que nous, on s'identifie à ce personnage-là, et donc que nous-mêmes, on soit un peu dans une posture voyeuriste. Donc on regarde le corps féminin, souvent ça va passer par des très gros plans sur des parties du corps, c'est-à-dire qu'on va, on appelle ça fragmenter le corps de la femme, sur ses fesses, sur sa poitrine, sur même son visage, des morceaux de son corps très localisés. Ça va passer aussi par tout ce qu'il va y avoir autour, la musique, etc. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de traits de mise en scène, de moyens mobilisés pour ça.
Et en lisant l'article de Laura Mulvey, j'avais noté qu'elle parlait des différents regards. Il y a le regard du personnage masculin, le regard du spectateur et aussi celui de la caméra.
Ouais.
Du coup, est-ce qu'on considère que le male gaze, c'est un concept qui est purement cinématographique ?
En tout cas, c'est comme ça qu'elle, elle le conçoit. Elle conçoit quelque chose de très cinématographique. Après, le principe d'idéaliser le corps féminin, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans plein d'aspects de la société. Mais en tout cas, ce male gaze-là, oui, c'est plutôt quelque chose qui est prévu pour l'image. En tout cas, donc la manière dont on va représenter ce corps-là en adéquation avec le regard du spectateur. Ouais.
Si le male gaze est un concept qui peut s'observer sur n'importe quel genre, il semble bien ancré dans le cinéma de science-fiction. Un des exemples pour moi les plus connus se trouve dans Star Wars 6, Le Retour du Jedi, lorsque le personnage de Leia se retrouve esclave de Jabba le Hutt. Rien ne justifie vraiment que ce personnage fort de la saga se retrouve représenté en tenue légère, à la merci du méchant, si ce n'est pour le plaisir des yeux du spectateur masculin. Du coup, ça me fait penser à la question de comment ça se manifeste, l'idée que la science-fiction, c'est un genre fait par les hommes, pour les hommes.
Comment ça se manifeste ? C'est-à-dire que ça peut justement se manifester là-dedans. Leia, c'est un personnage fort, comme tu l'as dit, c'est un personnage féminin fort, comme il y en avait peu à cette époque-là, d'ailleurs, mais qui est fait par des hommes. Donc du coup, même quand ce personnage-là est fort, même quand c'est quelqu'un qui veut être indépendant, qui veut pouvoir se passer des hommes à certains moments, on va quand même la sexualiser d'une certaine manière, comme si c'était quand même comme ce besoin-là, et qui va beaucoup exister du coup dans ce cinéma-là. C'est aussi effectivement un cinéma qui est très masculin, il y a très peu de femmes qui font de la science-fiction, soit parce qu'elles veulent pas, mais ma théorie c'est plutôt parce qu'on les laisse pas faire, elles ont peut-être aussi, certaines ont intégré que c'était pas forcément un monde pour elles, donc on va en avoir assez peu, donc c'est comme ça que ça se... pour moi que ça se manifeste, essentiellement, c'est le manque de regard féminin,
Un stéréotype récurrent du genre de la science-fiction consiste en des personnages féminins représentés comme naïfs, innocents, enfantins, mais à la fois séduisants, souvent malgré elles. C'est ce qu'on appelle le « born sexy yesterday », qui pourrait être traduit en français par « je suis né hier, mais sexy ». Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette idée-là ?
Donc ça, oui, c'est une idée que je reprends dans ma thèse, mais que j'ai pas inventée. Donc c'est un vidéaste qui s'appelle Jonathan McIntosh qui a développé ce truc-là. Donc être né hier en étant sexy, effectivement, c'est très littéral comme traduction, mais ça mérite d'être clair. C'est-à-dire que c'est lié à un film qui s'appelait Born Yesterday, donc né de la dernière pluie, où il y avait un personnage féminin qui était, selon ses propres mots, bête et fière de l'être. Et donc ce vidéaste-là a repris ce principe-là, donc d'une femme innocente, une femme un peu enfantine, donc une femme enfant, mais sexy. Donc il a rajouté le mot sexy parce que c'est donc une femme formée, mature, etc., mais avec un esprit un peu enfantin. Donc vraiment la femme enfant sexy, et qui va être repris par le cinéma de science-fiction. Donc là où dans certains autres films, certains autres genres cinématographiques, ça va pas forcément être bien vu, en science-fiction, il y a quelque chose qui fait que c'est accepté. Et qu'est-ce qui fait que ça accepte, on accepte cette sexualisation-là d'une femme-enfant? C'est le fait que ça va être des personnages imaginaires, donc des extraterrestres, des robots, des sirènes, tout ce qu'on veut, qui vont arriver dans un monde occidental, qui vont pas avoir les codes, et qui, de fait, va permettre à un homme de pouvoir avoir un espèce d'ascendance sur elle, de créer une relation professeur-élève, c'est-à-dire avoir cette relation où l'homme va pouvoir expliquer les codes de la vie occidentale à cette femme nouvellement arrivée, et au passage va pouvoir en profiter pour la pécho, voilà, c'est le mot qui me vient, voilà, concrètement c'est ça, et voilà, c'est ça qui se passe beaucoup avec ce cliché-là, et c'est un truc qu'on va pouvoir retrouver vraiment dans beaucoup de films, qui maintenant tend à disparaître petit à petit, mais on peut le retrouver beaucoup, ouais.
Et tu parles du fait que ce cliché en science-fiction, il est un peu plus accepté, et c'est justifié par le fait que ce sont pas forcément des ouais. personnages humains.
Ouais.
Du coup, est-ce que tu dirais que ces femmes-là, qui certes ne sont pas toujours humaines, qui peuvent avoir... qui peuvent être des aliens ou ce genre de choses. Est-ce que tu dirais que ces personnages féminins sont rendus, sont des victimes de ce cliché-là ? Et en quoi, si c'est le cas ?
Oui, parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est pas qu'elles existent, c'est pas qu'elles soient représentées. Au contraire, c'est intéressant de pouvoir représenter ces, des personnages avec une certaine innocence. Le problème, ça va être donc de les sexualiser. Et du coup, en creux, vraiment, derrière, on peut, si on tire le fil, on peut voir un espèce de fantasme un peu... d'amour, de sexualisation des de personnes mineures qui va être accepté et qui est d'autant plus insidieux que on va faire des blagues dessus. Ça va être un motif d'humour très souvent en fait. Justement, on va d'ailleurs moi c'est ça que je prends, c'est sur ça que j'ai travaillé beaucoup pour ma thèse, c'est sur ce cliché qui veut que cette femme-là, à un moment donné, elle va se déshabiller. C'est une scène qui est très récurrente dans pas mal de films. C'est je me déshabille, mais pas pour avoir une relation sexuelle. C'est je me déshabille parce que j'ai pas les codes, et je sais pas qu'il faut rester habillé, etc. Et du coup, trop rigolo, elle est à poil, et du coup, il y a toujours un personnage masculin qui sera là pour regarder. Et là, je trouve qu'en en fait, elle est victime dans le sens où elle n'est pas au courant, elle n'est pas consentante, du coup.
Ouais. C'est assez rabaissant aussi en termes d'image, du coup.
Complètement, ouais. Alors bon, voilà, moi je suis pas une femme, donc je sais pas ce que ça fait de voir ça, mais oui, j'imagine.
Ouais. Un peu, ouais.
Tu peux me dire, peut-être.
Ouais. Et on écoute un extrait d'un film qui reprend ce cliché, Le Cinquième Élément.
Ouais. You okay?
Mena loyne, trakta satun di mondo chi wen meta lakta liguna. Ispeo bena krasma fero djunna. Denon fergi homas meta trutki zid handla. Suk, suk. Topo metim bakta seno voi. Tito male ne palela. Seno, kiko homas statun djun. Bam, seno dop. Meta dindo skala. Nela dindo. Ujela boom.
Boom, yeah. I understand boom.
Bada boom.
Big.
Big.
Yeah, big bada boom.
Big. Bada big boom. Big.
Yeah.
Boom.
Yeah, big bada boom.
Bada boom.
Big. Boom. Big bada boom.
Tu parlais de Jonathan McIntosh, qui est la personne qui a réalisé donc un essai vidéo en 2017 sur le concept du Born Sexy Yesterday. Et dans cette vidéo, il cite à de nombreuses reprises le film de Luc Besson, donc Le Cinquième Élément, dont on vient d'écouter un extrait, comme exemple parlant de ce cliché. Comment Le Cinquième Élément, justement, reprend ce schéma ?
Justement, en fait, c'est presque un peu le modèle de ce cliché-là. On a donc Lilou, qu'on a entendu, donc elle est littéralement née hier, parce qu'elle est créée toute pièce par le gouvernement, qui va la faire... lui faire prendre la forme d'une femme, une femme mature, etc., mais qui n'a pas les codes, qui ne parle pas l'anglais, et donc qui ne sait pas où est-ce qu'elle arrive, etc. Et donc l'idée, c'est que derrière, le personnage de Bruce Willis va tomber amoureux d'elle. Dans ce cliché, il va y avoir un peu aussi quand même le fait qu'elle n'a connu personne d'autre. Donc lui, qui est un homme solitaire, mal dans sa peau, etc., il tombe sur une femme qui est vierge de tout, en fait. Donc il y a aussi ce cliché-là, ce fantasme-là, parce que il n'y a pas de comparaison possible, donc l'homme est...
Il est forcément placé au-dessus de tout, finalement.
Voilà, il est bien installé dans sa domination. Et là où il est très fort, ce film aussi, là-dessus, c'est que donc des scènes de déshabillage, il n'y en a pas une, mais deux. Et à chaque fois, en plus, c'est pour faire une blague, c'est pour faire un running gag, une blague récurrente. Donc on a ce personnage-là qui se déshabille à un moment donné parce qu'elle a besoin de se déshabiller, pas pour une relation sexuelle, mais pour un besoin. Et on a le personnage de Bruce Willis qui va, avec un autre personnage, se retourner. Eux ne verront pas ce que la femme fait, que la femme se déshabille. Par contre, nous, on voit, parce que la caméra est quand même sur ce personnage-là. Donc du coup, même si le personnage ne voit pas, nous, on voit, on est complice de ça quand même. Et en plus, par-dessus le marché, on va en faire une blague qui va revenir à chaque fois. C'est « Ah bah, oh là là, elle s'est encore déshabillée, oh là là, c'est dommage, il faut qu'on la regarde, quoi. » Voilà,
ça, ah, on n'a pas le choix.
Ouais, la tuile, quoi. Voilà, on est obligé de la regarder. Et puis, oh, c'est trop con, quoi. Elle comprend pas, quoi. Tout ça participe à faire un effet de domination... Et ouais, ce film-là particulièrement est assez fort là-dessus, quoi.
Et j'imagine qu'on n'en est pas forcément conscient en tant que spectateur que tout ça c'est pensé, c'est pensé
non,
de cette manière-là.
Non, parce que déjà c'est pas la première fois que ça existe dans le cinéma. Voilà, Cinquième élément, c'est fin des années 90 peut-être. Voilà, ça existe dans d'autres films qui sont apparus avant. Un film qui s'appelle Planète Interdite, par exemple, où c'est le même concept. L'homme se cache les yeux, mais la caméra est encore sur cette femme qui se dénude, etc., une femme extraterrestre. Donc oui, c'est quelque chose qui est intégré. Peut-être, voilà, toi, en tant que femme, t'as pu voir ça comme dégradant, et du coup, en tant qu'homme, en tant que spectateur masculin, ça va nous enseigner d'autres choses. Ça va potentiellement nous enseigner que... c'est drôle ces moments-là et que ça peut être même quelque chose de désirable parce que il a trop de la chance, Bruce Willis, d'avoir cette meuf parfaite, quoi. Ouais. Donc voilà, ça peut potentiellement enseigner ça aussi.
Et surtout, j'imagine que comme c'est quelque chose de, c'est pas nouveau dans le cinéma, plus on a l'habitude de le voir, plus on reproduit ce schéma-là. Ouais. Donc en fait, on ne s'en sort jamais, quoi.
Oui, puis ceux qui font les films le reproduisent aussi, parce qu'en se disant, potentiellement, ceux qui regardent la science-fiction, ils veulent ça.
Ça fonctionne.
Potentiellement. Après, ça n'a pas toujours été non plus. Un des premiers films de science-fiction, un des plus connus, donc c'est Metropolis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une scène où un personnage qui est un robot avec une forme féminine va se dénuder, va être une espèce de showgirl, voilà, pour des hommes, mais en contre-champ, donc de l'autre côté, on va voir ces hommes-là la regarder, mais avec des airs complètement lubriques, donc avec une idée très sexualisée derrière, donc ils sont présentés comme des porcs, concrètement, ces mecs-là, et du coup ça fait pas le même regard, parce que
là c'est clair, quoi.
C'est clair, et on n'a pas la possibilité nous-mêmes de s'identifier à ces hommes-là, et donc en fait on comprend que cette situation-là, cette scène n'est pas tout à fait normale, et qu'on est dans une scène de voyeurisme, alors que la scène du Cinquième élément ne laisse pas voir le voyeurisme parce que les personnages ne voient pas, mais en fait concrètement nous on voit. Donc c'est du voyeurisme quand même, et qui dit pas son nom, quoi.
So you live alone?
Yes.
You think I'm pretty?
I am gorgeous.
Come to me.
On vient d'entendre Scarlett Johansson, qui est une actrice qui, dans sa carrière, a régulièrement fait face à la sexualisation de ses personnages. Et en 2013, elle tient le rôle principal de Under the Skin, de Jonathan Glazer, dont tu parles dans ta thèse, me semble-t-il.
Ouais.
Donc est-ce que déjà tu peux juste nous faire un petit synopsis du film, de quoi ça parle?
Ouais, alors plus compliqué parce que c'est un film très spatial, presque expérimental. Donc c'est le personnage de Scarlett Johansson qui est un personnage qu'on comprend qui est une espèce d'extraterrestre, qui on la voit naître d'une certaine façon. Donc ça reprend un peu les codes du film d'horreur qui va avec un monstre qui essaie de prendre des victimes dans son antre. Et donc elle en l'occurrence sous forme de femme... en plus Scarlett Johansson, donc il y a une actrice qui est connue pour son corps mondialement, etc. Donc elle joue avec ça. Ce personnage-là va attirer des hommes dans une espèce d'antre, pour les dépecer concrètement, si on va là-dessus. Mais le principe du film, c'est qu'à un moment donné, elle se rend compte de ce qu'elle fait entre guillemets. Donc on peut interpréter le truc, mais en tout cas, à un moment donné, elle veut arrêter. Elle veut arrêter ça et elle part dans une espèce de road trip pour essayer d'arrêter d'être cette espèce d'extraterrestre et un peu se reconnecter au terrestre et voir un peu des humains qu'elle va pas essayer de manger du coup à ce moment-là. Okay. Voilà, concrètement, je sais pas si c'est très clair, mais le film lui-même est pas forcément très clair là-dessus.
Ouais, c'est un peu spécial. Alors moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai essayé de lire un peu ce qui se disait dessus. Ouais. Et j'ai pas vraiment réussi à savoir où ça se plaçait sur la représentation de la femme. Mm. Est-ce qu'on est plutôt sur du bien, du pas bien? Bon, c'est un peu dit comme ça, voilà. Mais...
Bah, c'est, je pense que c'est sujet à débat, en vrai. Je pourrais comprendre qu'on y voit encore un peu du male gaze à certains moments. Il y a un moment donné, elle fait du nu frontal. Je crois que ça doit être le premier de sa carrière, je crois.
Du nu frontal, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, donc, on la voit entièrement nue, okay. De dos, de face, voilà, à un moment donné. Okay. Mais c'est un moment où elle est toute seule dans son intimité et il y a un côté très mécanique, c'est-à-dire qu'elle elle essaie de... en tant qu'extraterrestre qui ne connaît pas le corps humain, elle essaie de comprendre comment fonctionne son propre corps à ce moment-là. Voilà, donc après, je comprendrais qu'on puisse dire pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être nu pour ça. Et en même temps, c'est un peu la mécanique humaine. Voilà, donc je pense que c'est sujet à débat là-dessus. Au-delà de ça, donc, Scarlett Johansson, qui est, comme je disais, connue mondialement pour son corps, etc., c'est un moment de sa carrière où elle a envie de casser ça, et donc on entendait dans ton générique le film Her, c'est deux films qui sont indissociables, qu'on recherche un peu sur ces films-là, sur sa carrière aussi à
Scarlett
elle.
Scarlett Johansson qui joue l'IA dans...
Oui, tout à fait, Her, ouais. Voilà, Scarlett Johansson qui est aussi dedans et qui joue une IA qui n'a pas de corps, donc on considère que dans Her, elle a pas de corps mais une voix, et dans Under the Skin, elle a pas de voix mais elle a un corps. Et donc en gros, dans Under the Skin, l'idée c'est de montrer ce personnage féminin qui ne parle pas, qui ne fait que séduire, et en gros qui essaie de sortir de sa condition de personnage entièrement séducteur, et qu'elle veut dépasser ce truc-là, cette image lisse qu'elle a. Donc elle est considérée comme une image pure, c'est-à-dire qu'elle peut même pas ingérer des choses, elle a pas d'intérieur, et on peut voir voilà, facilement la métaphore aussi avec... l'actrice Scarlett Johansson, donc, qui elle-même a été beaucoup réduite à ça, à son physique. Donc ça arriva à ce moment-là de sa carrière où elle avait besoin. D'ailleurs, par la suite, par exemple ses rôles dans les Avengers et choses comme ça, on voit qu'elle essaie de faire évoluer ces choses-là. Elle essaie de mettre. Elle a forcé un peu pour qu'il y ait moins de décolleté, ouais. Pour qu'il y ait moins de choses moulantes sur elle, etc. C'est une actrice intéressante pour ça, je pense.
Je disais que Under the Skin faisait partie de ton corpus de thèse. Est-ce que du coup, c'est pour ces raisons-là que tu as choisi d'en parler, ou il y avait d'autres choses intéressantes? J'imagine qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur ce genre de film. Mais...
Ouais, c'est un film très riche, très bizarre, mais très riche.
Ouais.
Alors non, à la base, non, c'était pas forcément pour parler de l'image féminine, parce que moi, ce qui m'intéresse plus à l'échelle de toute ma thèse, c'est la communication, la manière de communiquer, ouais. Et elle, pour le coup, communique par essentiellement le corps. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est la question du contact. Et elle n'entre jamais en contact avec ses proies. Donc, il n'y a pas vraiment de communication non plus avec ses proies. Même si les seuls moments où elle parle, c'est pour séduire. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de la communication. Et justement, ce qu'elle essaye d'apprendre petit à petit, c'est comment apprendre à toucher. Donc, elle va avoir une relation sexuelle consentante avec un homme. Apprendre à comment essayer de le toucher, etc. Donc, c'était ça qui m'intéressait plus, c'est comment on va avoir une relation qui se crée entre humain et non-humain à ce moment-là.
Le female gaze, qui à l'inverse du male gaze place le regard féminin par les femmes, pour les femmes au centre du récit, se fait une place notamment dans le genre du drame. Mais est-ce que la science-fiction, c'est un genre qui est ouvert au female gaze?
Déjà, est-ce que c'est un genre ouvert? Ça,
bon,
la question
déjà,
se pose déjà.
Voilà.
déjà, c'est une vraie question. Mais ouvert au female gaze, comme ça, je dirais non.
non catégorique.
Non catégorique. Non, j'exagère, mais il y a forcément des contre-exemples qu'on va pouvoir trouver, mais c'est, je pense, très rare et pas très connu. À ma connaissance, en tout cas, il n'y en a vraiment pas, ouais. Beaucoup. Ce que je verrais peut-être, c'est dans certains films d'action à l'époque avec Arnold Schwarzenegger, qui était donc bodybuilder à la base, et on peut voir. Des films voilà, où il va mettre en avant sa musculature, des choses comme ça. Je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de female gaze. En tout cas, c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir voir un corps masculin qui se veut être un peu pour le plaisir des yeux, parce que ça n'a pas vraiment d'autre raison d'être à ce moment-là. Donc je pense à Terminator, je pense à Total Recall, le film avec lui. Au-delà de ça, à ma connaissance en tout cas,
ouais, y a pas...
je me suis pas penché beaucoup sur le sujet, j'avoue, mais comme ça, quand même,
c'est compliqué.
Hein, c'est compliqué,
ouais.
Hein, ouais.
Et est-ce que, donc même sans parler forcément de female gaze, est-ce qu'il existe des films qui essaient de se détacher un peu d'une vision complètement objectifiée des femmes? En préparant l'émission, tu m'as parlé de Ex Machina.
Ouais.
Je ne sais pas si ça rentre là-dedans ou pas.
Oui, oui, pour moi, c'est d'ailleurs un des films qui m'a donné envie de parler de ce sujet-là. C'est, donc Ex Machina, c'est, pour raconter l'histoire vite fait, donc c'est un, dans une espèce d'entreprise à type à la Google, il y a le grand patron qui invite un petit développeur à venir chez lui dans une grande maison, et dans cette maison, il y a une intelligence artificielle qui a cette forme humaine et féminine, et en gros, son but, c'est de la tester, si elle est vraiment, si elle a une conscience, en fait. Est-ce qu'elle paraît presque humaine? Et donc tout le propos du film, à mon sens, c'est de montrer que justement, elle a des attributs féminins, elle est très jolie, etc. Et le personnage masculin va en tomber amoureux petit à petit, mais ça va être en fait en réalité une espèce de piège qui va se refermer sur lui petit à petit, où voilà, toute cette séduction qu'elle va mettre en œuvre pour lui, quelque chose de très sensible, de très beau, va être en fait montrée comme une prise d'indépendance pour elle. Le but du film, c'est pas de dire de diaboliser la femme. Au contraire, c'est de montrer comment cette femme-là va utiliser ses attributs de séduction parce qu'on lui a donné et parce qu'en fait c'est ce qu'on attendait d'elle à la base pour essayer de s'en émanciper et essayer en fait de, même si c'est ce jeune homme-là a toutes les bonnes intentions du monde, de montrer qu'il est aussi problématique parce qu'il est aussi dominant à ce moment-là.
Sans parler donc de female gaze, c'est un film qui essaye quand même de relever le niveau, on va dire.
Il n'y aura pas de female gaze dedans non plus. Alors ouais. Ça aussi, pareil, une critique qu'on peut faire au film par ailleurs, hein, c'est que pour le coup, il n'y aura pas non plus vraiment de female gaze, ouais. À mon sens. On va avoir un certain male gaze. Après, est-ce que pour autant, ça ne peut pas être une chose intéressante? Justement, on utilise le male gaze, justement, comme une espèce de piège pour le personnage, mais aussi pour le spectateur, parce que nous-mêmes, on est habitués à ce genre de film où on a... Bah, cet homme-là, comme on disait tout à l'heure, avec la bande Sexy Yesterday, cet homme dominant, bah justement, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on s'est identifié au personnage masculin, et en fait, on se fait avoir aussi. Mm. Donc ça nous montre aussi, en tant que spectateurs, qu'on a des automatismes sur la manière de voir ces personnages féminins. Quoi.
Ça permet de faire réfléchir un minimum.
Oui, oui, je pense. Ouais. Après, voilà, pareil, c'est peut-être soumis à débat, mais c'est ce que j'ai vu dedans, mais en tout cas, ouais.
Est-ce que tu as d'autres exemples de films comme ça, qui essayent de...
Bah, pour le coup, on parlait de Her tout à l'heure. Ouais, ça, pour le coup, c'est un film qui est assez intéressant là-dessus, vu qu'elle n'a pas de corps et que tout le film tourne autour du fait qu'elle n'a pas de corps. Cette intelligence artificielle, incarnée par Scarlett Johansson, donc qui n'est qu'une voix, et donc ce personnage masculin qui va tomber amoureux d'une simple voix, entre guillemets, de montrer voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir filmer une scène d'amour sans corps. Il n'y aura pas non plus de female gaze dans ce film-là, mais pour autant, le male gaze sera... pas là, en tout cas pas sur elle. On va en faire sur un autre personnage d'ailleurs, quand même. C'est quelque chose qui reste quand
toujours
même assez présent.
Toujours trouver un moyen pour...
Mine de rien, c'est quand même présent, mais en tout cas pas sur le corps de Scarlett Johansson. Justement, le but, c'est de dire, bah, elle n'a pas de corps, comment on va faire? Pour le coup, c'est assez intéressant, et c'est, comme je disais tout à l'heure, un film intéressant d'un carré de Scarlett Johansson, quoi, qui... On joue vachement sur le fait qu'on connaît son corps. Mentalement, on sait, on se souvient de son corps, mais on ne va jamais le voir.
Ouais.
Donc ça joue aussi là-dessus, sur notre perception. Quoi.
Ouais, moi j'allais juste dire, je pense que ça pourrait être intéressant un jour de voir un film de science-fiction vraiment complètement female gaze. Mais je me dis, est-ce que les réalisateurs, est-ce que les producteurs sont prêts à prendre ce risque?
Ça, c'est une autre question, effectivement. Je suis pas dans leur tête, ouais. Je suis pas dans la production non plus.
Mais on se dit, vu qu'on sait que la manière dont les films sont faits aujourd'hui marche...
Ouais.
Est-ce qu'on a envie de sortir de ça?
Je pense que petit à petit, ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver parce que ils se sont rendus compte aussi, les producteurs, ils voient que ça fait vendre. Voilà, ce que des personnes appelleraient le wokisme, etc.
Oui.
Le progressisme, voilà, que c'est aussi un moyen de faire vendre à certains moments. Donc, ils pourraient y venir aussi à un moment donné, mais pas pour des raisons progressistes. Pour le coup, ce serait des raisons purement financières. Donc... Après, voilà, quelle que soit la raison, ça peut être intéressant, mais,
oui,
mais à voir.
Ça peut ouvrir la porte, quoi.
Et même dans la production indépendante, c'est encore compliqué qu'il y ait des femmes en science-fiction, malgré tout, même dans ces milieux-là. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est donner plus de chances aux femmes d'en faire, identifier des femmes qui ont envie d'en faire, potentiellement. Et voilà, je pense que ça passerait par là. Alors il n'y a pas que les femmes qui peuvent faire du female gaze, d'ailleurs, hein, mais...
Oui. Mais ce serait aussi pas mal qu'il y ait plus de réalisatrices, mais,
voilà,
plus de productrices.
De manière générale, c'est aussi ça.
Ouais.
Voilà.
C'est ça aussi, peut-être un peu le problème.
Même sortie du female gaze. Voilà,
ouais, voilà. Ouais. Très bien, alors j'ai une dernière question pour toi, à laquelle je t'ai demandé de réfléchir, j'espère que tu y as réfléchi.
Si, ouais.
Si tu devais garder qu'un seul film de science-fiction à regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours,
Ouais.
Lequel ce serait et pourquoi?
Ouais, donc ça c'est hyper dur. Donc
je peux donner le mien d'abord si tu veux.
Vas-y, ça, ouais. Le mien.
Alors je suis désolée d'être la meuf basique que je suis. Non, c'est pas la soupe.
D'accord.
Je suis vraiment basique, mais moi c'est Interstellar,
okay,
de Christopher Nolan. Parce que c'est justement un des premiers films de science-fiction vraiment que j'ai vu après La Soupe aux Choux, du coup. Et
ouais.
Et j'ai pris une claque, tout simplement. Et c'est aussi que ça m'a sorti... Pour moi, la science-fiction, avant, c'était vraiment les aliens, les trucs de garçons.
Ouais, ouais, ouais.
Et un jour, j'ai vu Interstellar et j'ai vu qu'on pouvait parler de l'espace au cinéma. J'ai dit, c'est cool.
Oui.
Et du coup, ça fait que c'est un de mes films... Ça a été pendant très longtemps mon film préféré, qui a été battu par Oppenheimer de Christopher Nolan. Donc, on reste
dans Nolan,
dans
quand même.
La même vibe. Mais du coup, voilà, moi, en film de science-fiction, c'est basique, mais... Mais c'est très bien fait, donc...
Et en même temps, j'ai envie de dire, ces films-là, s'ils marchent, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose de facile qui se crée en nous. Et ils sont faits aussi pour qu'on ait envie de les regarder beaucoup. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est ces films-là qu'on va avoir, on va être appelés à les regarder beaucoup, quoi. Donc moi, c'est compliqué de répondre juste un, donc j'ai peut-être tenté de dire plusieurs, peut-être, on sait pas.
C'est pas la règle, mais
c'est
d'accord,
pas la règle, ok, bon, okay, okay. Ok, non, j'ai essayé d'en dire un. Non, il y en a un qui m'a beaucoup fasciné, c'est Premier Contact, c'est celui par lequel j'ai commencé ma thèse, c'est celui-là qui m'a lancé, parce que c'est avec une linguiste qui utilise donc la linguistique pour essayer de traduire un langage alien, qui donc, va avoir des péripéties là-dessus, et c'est un film qui est très sensible, qui est un blockbuster aussi, mais qui est un film assez sensible. Je peux pas dire aujourd'hui que je le regarderai en boucle, parce que la science-fiction, j'en ai un peu marre, on va pas se mentir, voilà, j'en ai vu beaucoup, j'essaie de voir d'autres trucs maintenant, justement, mais donc je le reverrai pas là, mais je pense que dans quelques années, ce sera un film que je vais regarder avec plaisir, et parce que ça reste quelque chose de très fascinant pour moi, ce rapport-là au langage, ce rapport à la traduction, et même à la compréhension qu'on peut avoir avec une espèce qui n'a... aucun point commun avec nous, ne serait-ce que même physique, ou pas du tout la même culture, pas du tout le même fonctionnement mental, voilà, est-ce qu'ils savent ce qu'est une question? Pas forcément, donc du coup, comment est-ce qu'on communique quand on n'a pas du tout les mêmes codes? Ça reste quelque chose qui me fascine et qui m'a engagé à commencer ce doctorat-là, sur ce sujet-là. Après, moi, il y aurait d'autres films que je préférerais voir en boucle, je pense, des films plus humoristiques. Je pense à un film qui s'appelle Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde, qui est un film d'Edgar Wright, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, mais qui a fait ce film de science-fiction-là, que j'aime beaucoup aussi. Ça parle de quarantenaires qui retournent sur leur village d'enfance pour faire un marathon.
Okay.
Et qui se rendent compte que dans ce village-là, les choses n'ont pas beaucoup changé, et justement, on en fait quelque chose de fantastique, parce qu'en fait, tous les habitants du village ont été contaminés par une forme extraterrestre. Ça parle vraiment de la nostalgie du village d'enfance, et en même temps, les problèmes que causent toutes ces nostalgies-là, et on en fait quelque chose d'assez fantastique, parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont bourrés petit à petit.
Ouais.
En fait, plus le film avance, plus ils sont bourrés, et plus ils ne comprennent pas ce qui se passe.
Ouais.
Et en même temps, pour moi, ça parle de quelque chose d'assez profond.
Merci pour ces recommandations. On arrive à la fin de cette émission, malheureusement.
Déjà.
Je remercie déjà tout particulièrement Radio Campus Grenoble de nous avoir accueillis aujourd'hui pour l'enregistrement de cette émission qui n'aurait peut-être pas pu se faire sans eux.
Ça aurait été terrible.
Ouais, ça aurait été vraiment un drame. Donc, merci beaucoup Radio Campus. Merci à toi, Samuel, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je suis très contente de l'avoir fait. Donc,
avec
merci
plaisir.
Beaucoup.
Merci à toi.
Et enfin, merci à vous, auditeurs de Radio Campus Grenoble et d'Info RC à Aubenas, d'avoir écouté cette émission.
Do you want to be my friend?
Of course.
Will it be possible?
Why would it not be?
Our conversations are one-sided. You ask circumspect questions and study my responses.
Yeah.
You learn about me and I learn nothing about you.
Hello, I'm here.
Oh. Hi.
Hi. How are you doing?
I'm well. How's everything with you?
Pretty good, actually. It's really nice to meet you.
Yeah, it's nice to meet you, too.
C'était une interview autour de la question de la représentation des femmes dans le cinéma de science-fiction avec Samuel Saint-Pé, qui est un docteur en études cinématographiques, et Lisa Bermond de Radio Campus Grenoble. Tout de suite, on va écouter un reportage de Sam concernant le club de football Queer Aman FC, un club qui est queer et féministe. Bonne écoute.
Radio.
Là,
lancer la balle au sol au max.
Kouraman, un club de foot pas tout à fait comme les autres. À Brest, une grande poignée de passionnés se retrouvent chaque lundi. Ici, pas de compétition, pas de jugement, juste le plaisir de jouer ensemble. Emeline, une des créatrices du club, revient sur sa naissance.
Ce club, il est né en juin 2025. À la base, on était une petite équipe qui était déjà constituée au sein d'un club qui s'appelle l'ASB. C'était un club classique de football féminin. Et pour beaucoup, on se revendiquait féministe. Et puis, il y avait aussi des personnes queer au sein de l'équipe. Et on avait envie de plus d'avoir un espace qui était beaucoup plus convivial et puis beaucoup plus inclusif au sein du football. Et on ne le voyait pas dans le paysage brestois. Et du coup, on s'est dit que chiche, on allait le créer. Et c'est comme ça que s'est lancée l'aventure du Queeraman FC.
Quelles sont les valeurs du coup du Queeraman?
L'idée, c'est déjà de lutter contre les discriminations, de faire en sorte que pour toutes les personnes queer, et donc, c'est-à-dire les femmes, les personnes trans et non-binaires, qui n'avaient pas d'espace sur lequel jouer au football, puissent venir à notre rencontre. Et donc ça, c'est la première, c'est une des premières valeurs. Et puis l'autre valeur, c'est d'avoir... de faire du foot avec du plaisir, en fait, et de faire que les gens se rassemblent. Et puis, il y a vraiment une idée d'inclusion et que tous les niveaux puissent venir et se retrouver. On peut être n'avoir jamais joué au football et venir au Queeraman FC. C'est l'idée aussi de découvrir autour d'une pratique collective, quoi.
Et pourquoi c'est important aujourd'hui de faire un club avec ces valeurs-là?
Ça marche plutôt bien. J'ai l'impression que ça répond un peu à la question. C'est qu'on était 15 et que maintenant, on est 60. Et que il y avait un besoin et que ce besoin il s'est fait un peu pressant et que là on a dû refuser même en tout cas clore les adhésions et que il y a 60 personnes qui trouvaient pas leur place dans des clubs de foot classiques et qui se retrouvent avec nous pour taper le ballon.
Comme beaucoup, Mathilde a rejoint le club début septembre. Elle nous explique comment elle a découvert le Queeraman et pourquoi elle s'y plaît.
J'ai entendu parler du club via les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et en soi, c'était un club qui m'intéressait particulièrement parce que je suis pas mal de clubs parisiens de type Medusa, Gadji FC, tous les clubs un petit peu féministes et engagés.
Du coup, ce qui t'a fait choisir le club, c'est côté féministe et engagé?
Ouais, ça fait pas mal d'années que je fais du foot, mais c'est surtout juste aller à l'entraînement, rigoler avec les gens, etc. Mais je crois que j'avais besoin d'un petit peu plus de choses à l'extérieur, des valeurs communes et partager plein de trucs autres que juste le foot.
Est-ce que tu te plais au Queeraman?
Carrément. J'ai trop hâte d'être le lundi pour venir à l'entraînement. Et on rencontre plein de gens super cool. Ça permet d'élargir un peu ses cercles d'amis et de proposer plein de trucs à faire à l'extérieur parce que les gens sont plutôt motivés à faire du sport, sortir. On a un peu les mêmes points communs et les mêmes intérêts, donc c'est cool.
On a pu découvrir les valeurs du Queeraman qui prône un jeu bienveillant et inclusif. Mais ce n'est pas tout. Ce club mélange aussi sport et militantisme. Emeline nous en dit plus.
Le sport, à la base, ça a une vision militante, notamment le football. Ça a été créé par des classes populaires avec l'idée de constituer des équipes qui se retrouvaient aussi pour se fédérer. On parle de confédération, on parle de rassemblement. Le foot, c'est maintenant quelque chose de très capitaliste avec beaucoup de sous. Mais à la base, c'est des gens qui se regroupent et qui vont taper du ballon. Et généralement, à la toute base aussi de l'histoire, c'était des gens qui se retrouvaient pour des convictions politiques. Et donc, c'est un juste retour des choses. Et l'idée, c'est aussi de montrer que le football, c'est pas que des gros sous et c'est aussi des valeurs et des projets militants tout autour, quoi.
Est-ce que vous faites des actions pour lutter contre les discriminations ?
Déjà, le fait que l'association existe, c'est déjà en soi une lutte contre les discriminations. Après, on fait en sorte que nos tarifs ils soient hyper aussi ouverts à tout le monde. Nos tarifs d'adhésion, ils sont à 15, 25 et 35 euros pour faire en sorte que tout le monde, toutes les bourses puissent venir jouer au foot. Au sein de l'équipe, on travaille fortement aussi à l'inclusion et à la lutte contre les discriminations au sein du collectif. On est du coup une soixantaine, donc il faut aussi faire attention à ça et faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et puis bah après, on a une équipe qui s'est montée autour de la militance, autour du projet du Queeraman FC. Et donc bah là, on est en train de se poser toutes les questions de nos engagements et donc de nos valeurs mises en pratique dans l'extra-football. Et donc ça va être aussi soutenir des luttes existantes, participer à des manifs et organiser des événements. Et donc là, ça va être plutôt quelque chose qui aura lieu courant 2026.
Merci Sam pour ton reportage. Alors nous, on se retrouve demain à partir de 18h et je vous souhaite une bonne soirée sur Radio U 101.1. Radio U.